J'ai beaucoup aimé cette parole qui nous a été donnée ce matin par Eric et Véronique, qui nous ont présenté la Sainte Seine et l'église de Chine qui se réjouit à chaque fois qu'un membre est ajouté. Et si vous avez bien compris, je ne fais que reformuler ce qui a été dit par Eric à travers la parole du jour qu'il avait reçue. À chaque fois qu'un membre s'ajoute à l'Église, eh bien, le Seigneur se réjouit parce qu'il a un nouveau cœur, de nouvelles mains et de nouveaux yeux. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez toute la portée de cette parole qui est loin d'être insignifiante. Nous sommes les mains, le cœur et les yeux de Jésus dans ce monde. C'est extraordinaire. Moi, cette parole, elle me percute. Ça veut dire que quelque part, nous avons une responsabilité en tant qu'Église. Nous reflétons Jésus dans ce monde, au milieu de ce monde. Amen. Nous sommes le cœur de Jésus, les yeux de Jésus, les mains de Jésus, travaillant et œuvrant dans ce monde. Donc cela voudrait dire, en d'autres termes, que nous avons le souci de l'autre, et que nous apportons la compassion dont a besoin celui qui se sent délaissé, celui qui se sent être mis de côté, celui qui ne se sent plus accompagné. Nous avons une parole que Jésus nous donne, qui est une parole de vie pour notre frère et notre sœur. Alors moi, je te remercie pour ce message qui nous a été donné, parce qu'il me percute. Parce qu'il me percute. Et parce que cela réjouit mon cœur que d'entendre une telle parole, mais faisons cette parole la nôtre. Ce qui nous enjoint à une responsabilité au plan spirituel. C'est une responsabilité que d'être le corps de Christ et de manifester le corps de Christ ici, sur terre. C'est-à-dire que dans mon travail, je suis le cœur de Jésus. Dans mon travail, je suis les mains de Jésus. Dans mon travail, je suis les yeux de Jésus. Dans mon voisinage, dans mon quartier, je suis le cœur de Jésus, je suis les mains de Jésus, je suis la vie de Christ en moi. Waouh ! Parfois, je note que c'est difficile quand une parole nous est donnée, qu'elle descende et qu'elle fasse, que nous la fassions nôtre. Vous comprenez ? Tu comprends là, Hélène ? Amen. Que nous fassions nôtre, que cela s'incarne en nous. Car le plus important est que la parole de Dieu soit incarnée, que nous la vivions, et qu'au fond, tous ceux qui vous rencontrent voient Christ en vous. Amen. J'ai le souhait de vous encourager ce matin, mais encore plus au travers de vous, puisque vous êtes le cœur, vous êtes les mains et les yeux de Jésus, d'encourager tous ceux qui ne sont pas ici ce matin et qui sont las, qui ne se sentent pas accompagnés, qui sont découragés. Et je voudrais commencer ce moment de partage par cette parole dans Deutéronome chapitre 31, à partir du verset 7. Je ne lis pas tout le verset 7 ni le verset 8, mais j'extrais pour que vous preniez compte de ce message. Dieu s'adresse à Israël, mais il s'adresse aussi bien à Israël qu'à l'Église. Et il dit ceci: « Fortifie-toi et prends courage ». Fortifie-toi et prends courage. Et peut-être là qu'en ce moment, tu as besoin de te sentir fortifié et de prendre courage. Ou en d'autres termes, cela voudrait dire ne perds pas courage. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il nous est dit, et je le rappellerai tout à l'heure que Jésus sera avec nous jusqu'à la fin de ce monde. Autrement dit, j'aimerais te dire, mon frère et ma sœur, jusqu'à la fin de ta vie, Jésus marchera avec toi. Il marchera même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Et ne te laisse pas effrayer. Amen. Le thème de ce message, qui m'a été inspiré par une lettre que j'ai lue, et n'abandonnez pas. Dans cette lettre que j'ai lue, qui était adressée à un organisme qui a vendu un logement, un appartement, et c'était une lettre de réclamation faite à l'organisme. Et ce qui m'a frappé dans le contenu de cette lettre, c'était ces mots. Vous m'avez accompagné, puis vous m'avez abandonné. C'est-à-dire que quand c'était l'intérêt de l'organisme de vendre l'appartement, l'organisme en question était disponible. Toujours présent, et c'est la lettre qui le rappelle, pour m'apporter tous les renseignements administratifs pour cette démarche de vente. Puis quand s'est présentée la livraison de l'appartement, l'occupant découvrit des vis de forme, des vis de construction. L'appartement n'était pas conforme au cahier des charges. Et celui qui a écrit cette lettre a dit, mais vous êtes resté silencieux à toutes mes injonctions, toutes mes réclamations. Silence ! J'ai relancé, et je n'ai jamais eu la moindre information et le moindre retour. Vous m'avez abandonné. Quand tout va bien, on accompagne les gens. Et quand tout va mal, on les fuit. Vous savez que dans l'Écriture, dans les Écritures, il y a ces passages extraordinaires de l'abandon. Il est même écrit dans la Bible, « N'abandonne pas au jour du malheur celui qui est en souffrance, celui qui est dans la douleur. » Même les amis de Job, qui étaient pourtant présents avec Job, Job ne ressentait pas leur appui, ne ressentait pas leur présence au sens spirituel du terme. Ils étaient si loin et si distants. Vous avez le sentiment que parfois on vous dit bonjour de manière sympathique, mais on n'est pas présent avec vous. On n'est pas à vos côtés. Je crois que c'est important que nous soyons, comme cela nous a été rappelé tout à l'heure dans la parole, que nous soyons le cœur de Jésus, les mains de Jésus, les bras de Jésus, et que la personne qui est en souffrance se sente réellement accompagnée. Pas d'acquiescer gentiment. Je prierai pour toi, mon frère ou ma sœur. Ça ne t'engage pas de prier pour les uns et pour les autres. Mais d'être là pour accompagner la personne quand elle le sollicite, quand elle en a besoin. Je m'interpelle Parfois, c'est tellement plus confortable de rester chez soi et de ne pas se laisser bousculer. Ce message, mes frères et mes sœurs, que je lance à votre intention, en réalité, c'est un encouragement. Je ne suis pas là pour culpabiliser les cœurs, contrairement à ce que vous pourriez penser. Mais j'aimerais simplement que vous soyez le cœur de Jésus, les yeux de Jésus, l'esprit de Jésus, et de dire à tous les frères qui se sentent abandonnés, n'abandonnez pas votre espérance. N'abandonnez pas votre frère ou votre sœur au jour de son malheur. N'abandonnez pas non plus votre assemblée. N'abandonnez pas votre assemblée. C'est important d'être... Alors, il ne s'agit pas de faire acte de présence, mais comprenez ce qui nous a été dit dans la parole tout à l'heure. Nous sommes les mains de Jésus, le cœur de Jésus, tous ensemble. Je me sens édifié par la présence des uns et des autres. Et si l'un des membres est absent, ben quelque part mon cœur est triste parce que j'ai besoin d'un sourire qui va m'encourager, d'une salutation et au-delà de la salutation, de l'intercession, de la prière. Amen. J'ai besoin de vous. Nous avons besoin de vous. Si mon épouse est absente du foyer ou qu'elle ne rentre pas à midi, je suis heureux de la retrouver le soir. Amen, parce qu'elle m'a manqué. Il est normal que nous ayons le sentiment d'un manque. Amen. Bon, je ne voudrais pas que vous vous décrochiez lorsque je parle, hein, et que vous me suivez. Est-ce que vous me suivez là? Oui. Parce qu'une exhortation m'a été apportée au cours de la semaine, donc je m'efforce d'être simple. Hein. D'accord? Si vous décrochez, vous me le dites, vous levez la main. Je voudrais commencer donc par cette première exhortation. N'abandonne pas, ne perds pas courage. Alors, vous l'avez déjà entendu. Maintenant, il faut mettre en pratique. J'aimerais te rappeler cette promesse, comme cela vous a été indiqué tout à l'heure. Je suis avec toi jusqu'à la fin de ce monde. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20. Et on pourrait lire cette parole de façon encore plus personnelle. Vous connaissez aussi cette parole, le Seigneur n'a jamais le bras trop court pour agir en faveur de ses enfants. Il n'a pas le bras trop court pour agir en faveur de ses enfants. Sans doute qu'en ce moment, tu as le sentiment d'être dans le trou. Connaissez l'expression d'être au fond du puits, au fond du trou, comme dans un désert. Tu cries et personne ne t'écoute. Personne n'est là pour se soucier réellement de toi. Et là, je songe en ce moment à la Samaritaine. Elle s'approche d'un puits. Peut-être qu'elle-même, elle est au fond du puits. D'accord ? La Samaritaine s'approche du puits. Elle est probablement au fond du puits. Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce passage. Et je vous le remémore. Elle s'y rend à midi, en plein jour, en plein soleil. Elle est sûre de rencontrer personne parce qu'il fait probablement très chaud au zénith de la journée. Donc elle s'y rend, persuadée de n'y rencontrer personne, parce qu'elle a peur de l'invective, des gens, des populations, dont on connaît la vie. vie d'échec. Jésus révéla dans son cœur qu'elle a eu 5 maris. L'histoire ne nous dit pas si elle les a abandonnés ou si elle a été abandonnée. Et le 6e n'est pas son mari. On n'en sait strictement rien. Mais elle a de bonnes raisons de se rendre là, à ce puits, à cette heure, avec l'invective, le jugement moral. Parfois, nous avons un jugement moral vis-à-vis des gens dont on pouvait penser qu'ils n'ont pas la bonne vie, entre guillemets. Jésus nous demande d'être ses yeux, son cœur, ses mains, d'être l'ami du pécheur. D'être l'ami du pécheur et d'aimer la personne, quel que soit, je dirais, son passé, son parcours, de l'aimer. Jésus n'apporte aucun jugement sur la Samaritaine. Vous vous souvenez de ça ? Aucun jugement. Il lui évoque le puits. Elle dit à la Samaritaine, bah, tu vas t'y rendre chaque fois ce puits. Et la source que tu voudras y trouver, finalement, n'étanchera jamais ta soif, puisque tu te rendras régulièrement à ce puits. Mais voilà ce que je veux t'offrir, ce que je veux te donner, c'est cette eau vive. Et le Seigneur nous parle de l'Esprit Saint. Et nous avons besoin de recevoir l'Esprit Saint dans notre vie, l'eau vive qui étanche notre soif. Et au fond, à toute personne qui se sent déchue, abandonnée, non accompagnée, notre réponse n'est pas toujours matérielle, mais notre réponse est aussi spirituelle. Et la réponse spirituelle que nous avons à donner à ses frères ou à ses sœurs, c'est qu'ils reçoivent l'Esprit Saint, qu'ils soient remplis d'Esprit. Amen. L'Esprit Saint. Alors ça ne suffit pas de prier, mais d'accompagner. Et que cette personne trouve sa ressource en Christ, retrouve sa source en Jésus. C'est là notre mission et notre mandat spirituel. Jésus n'avait pas de moyens matériels, vous l'avez compris. Est-ce que Jésus était riche? Non. Est-ce que Jésus avait des appartements? Non. Est-ce que Jésus avait plein de maisons? Non. Est-ce que Jésus avait de l'argent? Non. D'ailleurs, les Écritures nous montrent qu'à chaque fois, il était en défaut et qu'il fallait envoyer, mandater, je dirais, un de ses disciples pour aller chercher le poisson et puis trouver, je dirais, dans le poisson ce qu'il devait rendre. N'est-ce pas? Il est extraordinaire, notre Seigneur. Il n'a rien, mais il donne. Et il donne la vie. Tu n'as rien, mais au nom de Jésus, tu peux transmettre la vie. La Samaritaine, elle a des besoins et Jésus lui parle de l'amour qui vient d'en haut. Et cet amour terrestre qui ne pourrait la satisfaire et ne peut la satisfaire. 5 échecs, est-ce que le 6e ne sera pas un échec, encore une fois dans sa vie? Mais le Seigneur lui parle de cette source de vie capable de la renouveler. Aussi, ne perds pas courage. Voilà ce que le Seigneur lui dit. Et c'est ce que vous avez à dire à vos proches. Il est la source. Et celui qui vient à lui n'aura jamais soif. Tant et si bien que cette Samaritaine oublia même la cruche d'eau, pour annoncer autour d'elle la bonne nouvelle. Et nous devrions être pressés, nous, d'annoncer la bonne nouvelle autour de nous, d'oublier notre cruche, c'est-à-dire notre quotidien, ce à quoi nous sommes le plus attachés, pour partager aussi la bonne nouvelle autour de nous. Ça ne veut pas dire que le Seigneur nous invite à être déconnectés des réalités de ce monde, hein. Mais de ne jamais oublier la foi qui transporte notre cœur et qui nous fait aller vers les autres pour leur apporter cette parole d'encouragement, de soutien. Nous avons tant besoin de soutenir les autres, d'encourager les autres. On n'est pas là pour les sermonner. On n'est pas là pour leur faire la morale. Nous sommes là pour les ramener à Christ et à Jésus seul. Parce que c'est le travail de l'Esprit Saint que d'œuvrer dans les cœurs. Vendredi soir, il y a France qui nous dit « Waouh, je vous ai écouté, je vous ai entendu, il y a plein de lumières, plein de clignotants là qui sont en train de s'ouvrir. » Waouh, on n'a rien dit, hein. Mais je ne sais pas d'où venaient ces lumières et ces clignotants, mais tout d'un coup, tout ça lui parlait. Parce que c'est le Saint-Esprit qui parlait à son cœur et qui touchait son cœur. Vendredi soir, nous avions une réunion de prière avec, pas une réunion de prière, mais une réunion avec les jeunes bébés qui suivent ce parcours alpha et qui découvrent ces paroles qui viennent toucher leur cœur. En aucun cas, nous parlions de morale, mais tout d'un coup, les gens, au fur et à mesure, disent « Ah oui, il va falloir que je chemine dans le pardon, que je demande moi-même pardon. » Vous comprenez ce que je veux dire ? Tu me suis, Hélène ? Hein ? Aujourd'hui. Amen. C'est important, tout ça. N'abandonne pas, ne perds pas courage. Vous connaissez ce songe qui a été souvent rapporté comme témoignage dans les églises, où une femme disait avoir rêvé une nuit la personne de Christ qui l'accompagnait. Elle était sur le sable et elle voyait les pas de Jésus à côté d'elle. Et elle voyait ses propres pas. Puis tout d'un coup, elle ne voit plus les pas à côté d'elle. En fait, ses propres pas. Parce que dans le songe, il était rapporté que c'était elle qui était portée par Jésus. Et je trouve ça juste touchant de nous laisser porter par le Seigneur. C'est ça l'accompagnement de l'Esprit Saint. Jésus qui vous prend dans ses bras. Et ça, il nous faut le réaliser. Parce que nous avons des paroles très limitées. Mais Dieu qui existe, qui est réellement présent, a la capacité au travers de nous de parler à la personne et de prendre soin de cette personne et de toucher son cœur. Alors probablement que tu tâtonnes, que tu trébuches, que tu tombes et tu cherches vainement l'issue. Mais si tu cherches la solution sans t'appuyer sur Jésus, tu risques de te faire mal à nouveau. Amen. Tu risques de te faire mal et de te faire très mal. Ce que le Seigneur nous invite, c'est de marcher avec lui. C'est de ne pas nous arrêter en chemin sans lui. C'est d'avoir l'assurance que quand on tombe, il nous relève. Mais le Seigneur nous dit ceci, cessons de succomber aux appétits de la chair. Comme la Samaritaine qui espérait tomber sur le bon mari, mais un mari qui finissait toujours peut-être par l'abandonner. On ne sait pas ce que dit le récit exactement. Mais elle est bien dans les appétits de la chair. Vous l'avez bien compris dans le dialogue que Jésus entreprend avec elle. Et le Seigneur lui parle du renouvellement dans l'Esprit Saint. Plus vous êtes rempli de l'Esprit Saint, moins vous êtes sujet aux appétits de la chair. Vous me suivez ? Vous êtes d'accord avec cela ? Vous comprenez ? Parce que c'est le Seigneur qui est la source de ma vie. Amen. Merci pour la délicatesse de la source. Amen. Je vois qu'il est midi. Je poursuis. Dieu est avec vous. Il est en vous. Il voit chaque détail de toutes les situations que nous sommes amenés à vivre. Alors ne déposons pas les armes. Faisons-lui confiance. Il sait ce qu'il fait dans notre vie. Il sait ce qu'il fait dans notre vie. Jésus sait ce qu'il fait dans notre vie. En fait, sa volonté est parfaite en nous. Sa volonté est parfaite en nous. Et vous allez me dire, ouais, mais moi, tu vois, toutes les épreuves que je suis en train de traverser dans ma vie et dans mon existence, je me demande où est Dieu. J'aimerais simplement vous dire que l'apôtre Paul, il avait plus que nous tous dans une vie vécu des souffrances extraordinaires, épouvantables. Jamais il ne s'est senti abandonné. Et dans nos épreuves, il faut être assuré que tout cela fait sens. On aimerait avoir une vie sans épreuve, sans douleur, sans peine, sans difficulté. Et là, tu as vécu une épreuve dernièrement. Et puis, ce qui est extraordinaire, c'est que les enfants, finalement, ont réalisé l'importance d'aider maman, absente. Ça fait sens. Et ça a fait sens pour toi. Peut-être n'as-tu jamais autant décuplé d'attention et d'amour et d'attention. Ça fait sens. Vous comprenez? Ma sœur, dont l'épaule était handicapée, eh bien là, l'époux, il s'est mis en quatre pour être au petit soin. Et combien c'est agréable pour une femme de se sentir être au petit soin avec son époux qui prend soin d'elle, n'est-ce pas? Parfois, les épreuves ont sens, ou font sens. Je vois que tu souris. Ça nous parle tous. Quand tu es malade, quand tu souffres, Aline, tu es bien heureuse quand ton frère, ton mari qui est à côté, prenne soin de toi. Amen. Les épreuves sont faites pour nous bouger un peu. Vous êtes d'accord? Pour nous secouer, nous sortir de notre torpeur. Pour nous mettre en mouvement. Amen. Amen. Moi, je me souviens des épreuves que nous avons vécues là tous les deux. Ça nous a rapprochés l'un et l'autre avec Sabine. Et là, j'ai compris qu'il fallait que je joue aussi mon rôle d'époux et de mari. Et que je prenne le taureau par les cornes. Et que je me mette devant pour m'exposer et pour prendre ma responsabilité. Parfois, les épreuves donnent un sens nouveau à notre vie et nous renouvellent. Alors c'est pour ça, n'abandonne pas. Ne perds pas courage. Comprends que l'épreuve peut donner un sens pour renouveler ta vie et te mettre en proximité avec Jésus. J'aimerais aussi te dire ceci. N'abandonne pas au jour du malheur ton ami et ton frère. J'aimerais qu'on lise ces paroles dans Proverbe 19:7. Proverbe 19:7. Il est écrit dans ce texte des Écritures, Proverbe 19:7, « Tous les frères du pauvre le haïssent. Combien plus ses amis s'éloignent-ils de lui ? Il leur adresse des paroles suppliantes, mais tous, ce n'est pas écrit dans le texte, fichent le camp, ils disparaissent. » Parfois, le malheur tombe sur nous. Nous sommes au chômage, nous venons de vivre un divorce, nous perdons nos droits sociaux, les amis s'éloignent de nous, ils disparaissent de notre environnement. Quand tout va bien, ils sont là près de vous, c'est la cour du roi, les courtisans sont nombreux et multiples, mais quand vous perdez tout, il n'y a plus personne. Ça ne vous est pas déjà arrivé? Moi, quand tout allait bien dans ma vie, dans mon existence, voilà, j'étais heureux. Tout le monde était là, dans mon environnement. Et puis tout d'un coup, quand la catastrophe et le cataclysme est arrivé dans ma vie, plus personne. Ce sont des moments très éprouvants et je suis sûr que beaucoup sont passés par là. Ils disparaissent, ils prennent la fuite, c'est ce qu'il dit, c'est ce que les Écritures nous rapportent. Nous adressons la parole, leur regard se détourne de nous. Les Écritures sont claires. Si ton frère est dans la détresse au jour de son malheur, ne t'éloigne pas de lui. Il a plus que jamais besoin de toi. Il y a certains d'entre eux, nous, qui parfois, je l'ai entendu, se réjouissent en disant « bah c'est bien fait, il s'est éloigné du Seigneur, alors voilà, ce qui lui arrive est normal. » On n'a pas déjà eu ce genre de réflexion, hein ? Oh, je plaide coupable, hein ? Voilà, je plaide coupable. N'ayons jamais cette attitude-là. Justement, la compassion de Christ, tu la manifestes quand la personne qui justement s'est éloignée du Seigneur, tu es là et tu ne portes aucun jugement. Tu lui apportes le secours qui vient de Christ et tu relèves cette personne. Il y a cette autre parole que nous lisons dans Job 6, versets 21-23. Et là, il s'adresse à ses amis. « Ainsi, vous êtes comme si vous n'existiez pas. » Job s'adresse à ses amis. « Ainsi, vous êtes comme si vous n'existiez pas. Vous voyez mon angoisse et vous en avez horreur. Vous voyez mon angoisse, mais en réalité, vous êtes là à côté de moi, vous êtes en train de jeûner, vous avez déchiré vos vêtements, vous êtes mis nu comme moi. » C'était chouette comme geste. Mais en réalité, je vous vois. Mais mon angoisse vous terrifie. Ma peur vous terrifie. Vous êtes là, mais vous n'êtes pas présent. Vous comprenez ? La vie de Christ, elle doit être en nous pour toucher les cœurs. Il ne faut pas faire acte de présence. Il faut que la vie de Christ soit en nous. Le cœur de Jésus, les mains de Jésus, la pensée de Jésus. Job s'est senti abandonné, même si ses amis faisaient preuve de présence. Job avait lu la réalité qui est dans le cœur de ses amis. Il avait lu la réalité de leur âme. Vous voyez mon mal-être ? La détresse de mon âme, et vous la fuyez. Vous êtes là avec vos flots de paroles, ça arrive, ma sœur, mais moi je souffre, et vous ne comprenez pas ma souffrance. Bien pire, nous fuyons la personne qui ne parle pas comme nous, qui ne s'exprime pas comme nous. Oh, qui ne s'exprime pas comme nous. Mais le Seigneur te demande d'avoir de l'attention pour elle, pour ta sœur. Qui ne parle pas comme toi, qui ne s'exprime pas comme toi, mais qui est une richesse. Amen. Que t'importe qu'elle ne se conforme pas à ta vie, qu'elle ne soit pas de ton statut, qu'elle ne se conforme pas à tes principes moraux, elle est ta sœur. Il est ton frère, ne le fuis pas. Qu'il est triste pour un frère ou pour une sœur de ne pas se sentir soutenu le jour où je ne vais pas bien. J'espère d'avoir des amis le jour où je n'irai pas bien. Hein ? Amen, je peux compter sur vous ? Amen, je peux compter sur vous ? Amen. Parce que le jour arrivera, hein, on vieillit, hein. On aura peut-être une maladie, et le jour où on ne va pas bien. J'espère compter sur vous, l'épouse. Eh bien, elle doit compter sur moi, parce que je dis toujours, je partirai avant toi. Mais elle me dit, mais si c'est l'inverse, je lui dis, non, c'est pas possible, Seigneur. Mais j'en sais rien, justement. Je n'en sais strictement rien. Et tu as bien fait, Jacqueline, de me le rappeler. Je n'en sais strictement rien. Alors je prie, Seigneur, Mais... peut-être que je dois redoubler alors d'attention et d'amour. C'est ce qu'on attend, hein. Et je reviens sur cette parole, que ferez-vous du reste de votre vie ? Amen. Vous savez, Abraham, il n'a pas abandonné son neveu Lot. Lot, il a fait ce qu'il ne devait pas faire, on est bien d'accord. Mais au jour de son malheur, parce que Lot a été confronté deux fois, à deux reprises, à des moments éprouvants, comme nous le relatent les Écritures. Et qu'est-ce qu'a fait Abraham ? Il lui a dit, tout, c'est bien fait, il a choisi son chemin. Je lui ai proposé, il a choisi son chemin. Et puis en plus, il s'est mis dans un drôle de pétrin. Au milieu de Sodome et Gomorre, d'accord ? Au milieu du mal. Mais Abraham est allé le chercher. Jésus, qu'est-ce qu'il fait quand il parle des brebis, des 100 brebis, et de la une sur les 100 qui s'en va, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait, Jésus ? Il est allé la chercher, cette brebis perdue. Le berger est allé chercher sa brebis perdue. Abraham est allé chercher Lot dans le pétrin. On n'abandonne pas son frère et sa sœur. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. On n'abandonne pas son frère et sa sœur. Et je sais que mon frère Christian n'abandonne pas son frère et sa sœur. Et je sais que chacun d'entre nous ici, nous n'abandonnons pas et nous n'avons pas abandonné notre frère et notre sœur. Mais nous avons à nous le rappeler. Amen. Ne pas abandonner. C'est pour ça que le mariage est sacré. Vous comprenez ? Je suis désolé, j'utilise le terme de sacré. Parce que Dieu nous montre là une alliance. Une alliance indéfectible. Et c'est pour ça que le Seigneur est tellement attaché à ce que nous soyons les représentants de l'Église à travers nos couples et que nous avons à être fidèles et que la valeur du mariage est extrêmement importante parce qu'elle montre aussi que nous n'avons pas abandonné celui qui, à un moment de faiblesse, est dans la difficulté et l'épreuve. Amen. Je conclurai par ce dernier point, n'abandonnez pas votre assemblée. Non, mais t'inquiète pas, Laurence, le poulet va être bon. Je termine. Hébreux 10, 25. Emparons-nous fermement de la profession de notre espérance concernant son retour. Il est fidèle celui qui l'a promis. Et veillons les uns sur les autres pour nous stimuler à l'amour et aux bonnes actions. À quoi sert l'Église ? À quoi sert l'Église, mes amis ? Pourquoi nous sommes là, aujourd'hui ? Qui peut me répondre ? À quoi sert l'Église ? D'abord, l'Église, c'est toi, je te rappelle. Tu es membre de l'Église, pas membre de l'association Vie Nouvelle, tu es membre du corps de Christ. À quoi sert l'Église ? À nous exhorter, à nous encourager à marcher dans la charité, à marcher dans l'amour, à nous stimuler à vivre l'amour de Christ. Oui, le corps de Christ, c'est ça, nous sommes la manifestation de Christ. Je vous encourage à vivre la communion fraternelle pour vous mettre au service des autres. L'Église, c'est ça. Je nous encourage à être dans la communion fraternelle pour nous mettre au service des autres, pour mettre au service le don que nous avons reçu. Mais si dans un lieu, vous ne pouvez pas vivre cela, rien ne vous oblige à y rester. Si vous ne pouvez pas vivre cela, rien ne vous oblige d'y rester. De fait, moi, je ne brandis pas ce verset pour culpabiliser les frères et les sœurs qui abandonnent leur assemblée. C'est parce qu'ils n'y trouvent pas leur place. Mais ce que je souhaite qu'ils comprennent, c'est que l'Église, la véritable Église, c'est l'Église qui est au service des autres. Et donc, je vais être catégorique. L'Église, ce n'est pas Facebook. L'Église, ce n'est pas Internet. L'Église, ce n'est pas le virtuel. L'Église, c'est la relation à l'autre, c'est la relation à son prochain, c'est l'entraide, c'est j'ai besoin d'Éric, ok, je viens. Amen. Je l'ai fait. Hein. Ok. C'est au service, le don que tu as reçu, tu le mets au service de l'autre. C'est ça l'Église, mes frères et sœurs. Amen. Le don que tu as reçu, le talent que tu as reçu, l'amour. Dieu t'a donné une bonne santé. Il t'a donné deux pieds, deux jambes. Alors serre-toi de tes jambes et de tes des pieds pour aller vers ton prochain. Amen. Surtout lorsque ton frère est handicapé, rends-lui service dans ce cas. Mes frères et sœurs, à propos de vie nouvelle, nous ne cherchons pas une croissance quantitative. Alors on serait vraiment très heureux depuis tant d'années de voir la croissance, mais on ne la voit pas. Mais moi, je voudrais que nous nous soucions de véritables authentiques disciples qui se lèvent pour être le sel de la terre et la lumière du monde. Amen. Il y a ici parmi nous beaucoup de richesses, de talents que bon nombre d'églises envieraient. Il nous importe, nous tous, de servir Christ, de servir ensemble Jésus. Amen. Au fond, la seule et vraie question qui vaille, qu'est-ce qui nous motive lorsque nous décidons de rester dans notre assemblée? Qu'est-ce qui nous motive lorsque nous décidons de rester dans notre assemblée? Est-ce que c'est la peur de ne pas respecter ce verset? N'abandonnez pas votre Église. Ou bien est-ce que c'est l'amour fraternel, l'amour de l'enseignement, l'amour de la liberté que nous y ressentons? Il est essentiel de se rassembler entre frères et sœurs, de ne pas abandonner notre assemblée et de le célébrer dans la communion avec Christ comme cela nous a été rappelé. Et comme le rappelle le psaume 133, à qui il est doux pour des frères de demeurer ensemble. N'abandonne pas, ne perds pas courage. N'abandonne pas ton frère au jour du malheur ou ta sœur au jour du malheur. N'abandonne pas ton assemblée. Amen. Sur nous tous et Père, que nous puissions vivre cette parole tout au long de la semaine, parce que tu vas donner l'occasion à chacun au cours de cette semaine de manifester le corps de Christ, de manifester tes mains, tes yeux, tes bras, tes pieds. Seigneur, tu vas manifester que nous sommes Christ ici, là, sur cette terre, pour manifester ton amour et pour être le reflet de ce que tu es. Et je te prie, Père, que tu donnes l'occasion à chacun de mettre en pratique et de confesser ce que tu es. Amen.